Le cinéma américain est donc présent sur les écrans des salles d'arrêt d'essai très abondamment, tellement abondamment qu'on est un peu débordé. Comment parler à la fois de soupçons, du grand sommeil, de écrit sur du vent? Alors bon, il semble que écrit sur du vent ait cristallisé beaucoup de choses ces temps-ci. D'abord parce que je crois que le film a eu beaucoup de succès, puisque les salles étaient pleines. C'est, Jacques Robert, c'est, en tant qu'exploitant, tu peux me confirmer que ça a eu du succès, non? Bon, bah, c'est pas dans tes salles.
C'est pas chez moi, mais je crois que ça a eu du succès, effectivement.
Bon, alors, Laura Lofer, bon, c'est à cause d'écrit sur du vent que vous m'avez appelé. Alors, je voudrais savoir ce qui s'est passé quand vous avez revu, parce que je suppose que ça devait être la énième fois, que vous voyez écrit sur du vent.
Bah, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que je suis allée revoir écrit sur du vent et je me suis aperçue que les gens riaient beaucoup. Alors, écrit sur du vent, c'est normalement intitulé mélodrame. Et les gens rient beaucoup en disant, j'ai écouté ce que les gens disaient à la sortie de la salle, c'est « Ah, ce que c'est kitsch !»« Ah, il y en a trop !»« Ah, c'est pas possible, on tient plus, c'est exagéré !» Et on voit bien que c'est un Américain qui a fait ça, il n'y avait qu'un Américain pour avoir une idée pareille. Alors, déjà, deux petits mots sur Sirk, c'est déjà rapidement, c'est pas forcément là-dessus qu'on peut accéder là-dessus. C'est vrai que c'est à Hollywood que c'est tourné écrit sur du vent, mais Sirk n'était pas américain, c'était un Allemand, c'était Hans-Dietrich Sirk, d'origine danoise, qui a derrière lui une très longue carrière de metteur en scène de théâtre, qui a monté du Brecht, du Kaiser, qui a monté du Shakespeare, Euripide et Sophocle, et je crois que son attachement à la tragédie grecque, c'est très important, et qui a vécu bon, les événements douloureux de la Révolution allemande des années 20, et qui s'exile en 38 pour échapper aux nazis, et donc passe en France pour ne pas continuer la partie de campagne qu'il refuse d'achever, puisqu'on lui avait proposé de l'achever. Lui, quand il a vu le film de Renoir, il a dit « mais j'ai rien à rajouter ». Et il est parti ensuite aux États-Unis.
Il a fait un film en France quand même.
Oui, il a, je crois, un remake de « Off Concert », quelque chose comme ça.
Ça s'appelle « Accord final ».
Oui, « Accord final ». Oui. C'est un remake de...
Et après avoir tourné quand même quelques films en Allemagne.
Oui,
aussi.
Oui. Alors, en Allemagne, il a plein de films à son actif.
Avec Zara Lander.
Oui, avec Zara Lander, la Habanera, le Parramatta, Bagne de femme. Et puis un film que je trouve très, très, très beau, qui s'appelle Das Mädchen von Morhof, La jeune fille de Morhof, qui est un film très dreyerien, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'un des metteurs en scène que Sirk aimait beaucoup, c'était Dreyer. Et Dreyer a vu La jeune fille de Morhof et avait dit, c'est un film que j'aurais pu faire. Et moi, je l'ai vu au Luxembourg, chez Fred Jung, et c'est effectivement un très beau film. Alors, tout ça pour en revenir à Sirk. Alors, les rires des gens, j'essaie de voir où c'était. Ça se place, beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, on pourrait voir un petit peu où se place le rire des gens dans les salles. C'est souvent dans des scènes, dès qu'on parle un petit peu d'amour, à la manière romanesque, hollywoodienne, ou même pas forcément hollywoodienne, d'ailleurs. Et ce qui est même plus inquiétant aujourd'hui, je trouve... Dans des scènes de meurtre, par exemple, j'ai revu Les Langues, j'ai revu La Rue Rouge. Donc, au moment où Edward G. Robinson prend le pic à glace et tue John Bennett, quand même une scène extrêmement violente, les gens étaient écroulés de rire dans la salle. Également, dans Cap et Poignard, les gens rient quand Gary Cooper étrangle le nazi de ses mains et que Lang, d'une manière très concentrée, très, très violente, très serrée, cadre Gary Cooper, bon, dont on voit qu'effectivement, tuer, c'est pas si facile que ça. Et les gens rient. Alors, je me dis, les gens rient parce que c'est une réaction de défense par rapport à des choses qui leur échappent. Du moins, c'est une question que je me pose. Une question que je me pose. Et alors, pourquoi est-ce que Écrit sur du vent ferait tant rire? D'abord, Écrit sur du vent est un film, pour moi, qui est très, très riche. Est-ce que c'est un mélo? Bon, sa vie, il commence par la fin. Sa construction me semble beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait dire déjà de la tragédie classique. À savoir, le début, c'est la fin. C'est-à-dire, Stack qui arrive avec sa voiture, qui fonce complètement ivre dans cette maison, qui ouvre la porte avec le vent et l'automne qui s'engouffre avec cette. Dans les couleurs de Russell Mitty, bon, puisqu'on sait que Sirk avait pratiquement pensé le film plan par plan, du point de vue de la picturalité, du point de vue des couleurs, en donnant aux couleurs une valeur émotionnelle, une valeur dramatique. Donc, tout est pensé. Il n'y a pas. Rien n'est laissé au hasard. Tragédies qui sont mises en route, que peut-être du mélo. Et alors, l'enjeu, je trouve que c'est un film très moderne, écrit sur du vent, qui me fait beaucoup penser à un autre metteur en scène. C'est un peu pour moi, dans le cinéma américain, l'équivalent de ce, quelque part sur les enjeux de ce qu'est la règle du jeu de Renoir. À savoir que ça met en scène quand même à travers le regard de Sirke, qui d'ailleurs a quitté l'Amérique en 58 ensuite, parce qu'il a traversé le macartisme de façon douloureuse, il supportait pas la censure politique et sexuelle d'Hollywood, et il vit depuis, je crois, retiré en Suisse, et il continue de la mise en scène de théâtre et un petit peu de cinéma, et il a repris son nom allemand, de Sirke. L'histoire un petit peu d'Écriture du vent, c'est... Alors, tout se noue autour de cette rivière, qui fait d'ailleurs beaucoup rire. La scène de la rivière, enfin, à chaque fois que les personnages se retrouvent autour de la rivière, tout le monde rit dans la salle. Parce que cette rivière, effectivement, je crois qu'on la trouvera nulle part au monde que dans le film de Sirke. Et qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont au cinéma, attendent à voir du réel, du document ou du banal, et pas l'œuvre de quelqu'un qui s'implique, qui donne sa vision du monde. Je veux dire, et cette rivière, elle est entièrement créée dans l'univers sirkien. Et alors, elle est importante puisque c'est là que tout se noue. C'est-à-dire que cette rivière, c'est là où trois des personnages veulent revenir parce que leur enfance s'y est nouée. Et en même temps, c'est là où on ne peut pas revenir parce que je dirais que c'est une espèce de frontière. Frontière de classe sociale, en tout cas en ce qui concerne Mitch, qui lui deviendra géologue, c'est-à-dire technicien qualifié, alors que Kyle et Marie-Lee sont en fait des enfants de milliardaires, c'est-à-dire ce sont les fils des grands propriétaires pétroliers au Texas qui en fait n'ont pas de but dans la vie si ce n'est pour Kyle de se saouler, de courir le jupon, etc., et d'acheter des femmes, et il en épouse une parce que je crois qu'il ne peut pas l'acheter. Je crois qu'il scelle le contrat de mariage avec Lorraine Bacall parce qu'elle n'est pas achetable.
Bon, alors, non, je vous remercie beaucoup parce que je trouve que votre plaidoyer pour Écriture du vent est tout à fait beau, vraiment. Merci, Laura Loffert. À partir du moment où vous entrez un peu trop dans le scénario du film, à partir du moment où on se trouve soit devant des auditeurs qui ont vu le film et qui savent ce dont vous parlez, soit de ceux qui ne l'ont pas vu. Ceci dit, je crois que vous en avez dit assez pour me donner à moi, par exemple, l'envie d'y retourner et d'y retourner au-delà du nombre de fois, par exemple, où il a pu passer, je pense, à la télévision, et d'ailleurs de le revoir sur écran en anglais et tel que vous l'avez. Alors, ceci dit, je crois que j'ai un commencement de réponse à votre question sur les rires, c'est qui d'ailleurs remonte dans le passé, aux années 50, et je me rappelle de rires semblables dans un ciné-club qui était le ciné-club de la cité universitaire, ou dans les ciné-clubs d'étudiants des années 50, où on riait beaucoup, et je me rappelle de la cinémathèque aussi, à certains mélodrames de Griffith, par exemple, où on riait aussi quand la salle était pleine, ce qui n'arrivait pas, heureusement, souvent. Toute cinéphilie est fondée sur une danse sur la frontière, c'est-à-dire une danse sur la frontière entre le vrai et le faux, l'envie d'y croire et en même temps le recul, l'humour intérieur et le bord des larmes. Enfin, le cinéphile est quelqu'un qui circule sur les frontières, qui joue avec les degrés de réalité comme un pianiste avec les touches d'un piano. C'est votre cas, c'est comme ça que vous voyez les films, c'est comme ça que nous les voyons aussi.
Aujourd'hui, on ne veut plus accepter un cinéma construit. On veut que le cinéma, ça fasse vrai. Et à partir du moment où on voit un coin de décor, on commence à crier au scandale. Alors qu'il y a un plan célèbre d'un Écriture du vent où on voit la caméra de Russell Mitty en ombre sur le mur. Ça tient un tiers de l'écran et le Sirke l'a laissé parce que ça n'a pas d'importance. On sait bien que le film est fait avec une caméra, donc il faut marcher. Et justement, je trouve que ce manque de naïveté est une preuve d'imbécilité. Et je suis extrêmement sévère avec ça, parce que ça fait 20 ans à peu près que je me bagarre pour imposer Douglas Sirke, et je présente des week-ends de Douglas Sirke dans tous les ciné-clubs, avec des tas de ricanements dans les premiers films, et puis au quatrième, au cinquième, on commence à envisager les choses d'une façon différente. Je crois que c'est un manque de culture, dans le bon sens du terme.